Et votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et c'est l'heure de prendre du recul sur les dernières infos du jour avec nos grandes voix. Ce soir, toujours confinés et à distance, Virginie Salmen du service Société d'Europe 1, Emmanuel Duteil en charge de l'économie, Michael Darmon, éditorialiste politique, et depuis Berlin, ce soir, notre correspondante en Allemagne, Hélène Kohl.
Bonsoir les grandes voix, bienvenue
bonsoir
à tous.
Bonsoir Nathalie,
bienvenue
bonsoir
Hélène
à tous.
Hélène, c'est vous que je vais solliciter pour démarrer parce que Angela Merkel est en ce moment même en train de donner une conférence de presse là, cet après-midi, où elle est en train de faire le point sur l'épidémie et déterminer les dates et les mesures de déconfinement. On y est.
Oui, effectivement, une conférence de presse qu'on attendait autour de 16 heures. Et ben, en fait, ça a duré plus longtemps que prévu. Il y a eu beaucoup de points à éclaircir entre la chancelière et les présidents des 16 Länder allemands. L'Allemagne, c'est un pays fédéral. Et donc, l'État fédéral dirigé par Angela Merkel a besoin d'agir en concertation avec les régions. Donc, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et effectivement, en ce moment même, la chancelière s'exprime. Et elle a donc d'abord remercié les Allemands qui ont bien respecté les consignes. Pas pour plaire au gouvernement, a-t-elle dit, mais vraiment pour faire quelque chose pour tout le monde, pour la communauté, pour le pays ensemble. Et donc cet accord, c'est tout d'abord pas vraiment de déconfinement, mais des assouplissements dans le régime actuel, et notamment à partir de lundi prochain, c'est la grande annonce, la réouverture des commerces de moins de 800 mètres carrés partout dans le pays. Donc ça, c'était une annonce très importante, très attendue, parce qu'effectivement, beaucoup de petits commerces en centre-ville, beaucoup de petites entreprises souffraient de ces fermetures. Donc là, ça va être possible de rouvrir tout en respectant un certain nombre de distances de sécurité. D'une manière générale, le gouvernement demande aux gens de continuer à ne pas fréquenter d'autres personnes que le cercle de la famille jusqu'au 4 mai. Donc on est sur un régime de, j'allais dire, de semi-confinement. On peut sortir, on va pouvoir faire des courses, mais d'une manière générale, il faut éviter de voir les gens. Et à partir du 4 mai, c'était la deuxième grande annonce qu'on attendait, les écoles dans tout le pays vont rouvrir à leur tour progressivement, les grands, puis progressivement dans le courant des semaines suivantes.
D'accord, donc ça se passe déjà en plusieurs étapes à partir de lundi 20 avril, donc on le voit pour les commerces de moins de 800 mètres carrés, 4 mai ensuite pour les scolaires, et puis vous nous direz dans un deuxième temps ce qu'il en est des grands rassemblements par exemple, ou bien sûr des transports et des magasins. Je vais revenir vers vous, bien entendu Hélène Kohl. On va faire le tour des grandes voies ce soir, bienvenue à tous, avec Virginie Salmen. J'aimerais bien commencer avec vous ce soir parce que on a entendu Didier Raoult, et on en a parlé dans le journal de Sébastien Krebs il y a quelques minutes. Didier Raoult très, très optimiste et très affirmatif aussi sur la disparition du virus, là, pour le printemps. Alors, Emmanuel Macron s'était rendu à ses côtés, l'avait même, entre guillemets, adoubé, hein, déjà il y a quelques jours. Là, un peu plus encore ces dernières heures.
Oui, Emmanuel Macron a dit, Didier Raoult, qu'il était un grand scientifique et qu'il fallait tester sa bithérapie. Voilà, donc ces essais sont très controversés, ça fait polémique depuis le début de l'épidémie. Il faut tester, donc avec un essai clinique irréfutable, dit le président de la République. Et donc j'ai mené l'enquête, évidemment, pour essayer de voir quels étaient... Vous savez qu'il y a des centaines d'essais partout dans le monde, donc c'est pas facile d'y voir clair du tout. Finalement, il se trouve qu'il y a un essai clinique, le CHU de Montpellier, qui depuis quelques jours a commencé à se dire, écoutez, il faut voir si ce que fait Didier Raoult, si on le teste avec un vrai protocole vraiment labellisé entre guillemets, ce que ça donne. Il faut faire le clair sur tirer au clair cette affaire de chloroquine plus azithromycine. Vous savez que c'est associé un antibiotique et que l'hydroxychloroquine est testée dans beaucoup d'endroits, mais pas pour l'instant avec de l'azithromycine, sauf au Brésil et dans quelques autres endroits, mais en France ça n'existait pas. Donc voilà, le CHU de Montpellier s'y colle. C'est pour l'instant, il y a 3 patients qui sont entrés dans l'étude. Il y a une dizaine d'autres CHU ou hôpitaux du Sud, d'Occitanie ou de PACA qui entrent progressivement dans l'étude. L'objectif, c'est d'avoir 150 patients pour avoir une base fiable d'études. Et puis, faire enfin la preuve, d'ailleurs comme le demande Emmanuel Macron ce matin, faire la preuve de est-ce que cette association de 2 molécules fonctionne vraiment, apporte un vrai bénéfice, et puis très important aussi, à quel stade, parce que Didier Raoult donne ce médicament de manière très précoce, est-ce que ça fonctionne à ce stade-là, et puis chez les cas un peu plus graves. Donc voilà ce qu'on est en train de tester avec cette seule étude du CHU de Montpellier.
Bon, en tout cas, cette manière d'adouber comme ça Didier Raoult de la part du président de la République, c'est quand même une surprise, et ses conclusions, on l'a rappelé, ne font pas l'unanimité chez les spécialistes.
Oui, alors peut-être justement, c'est aussi une façon, j'ajoute quelque chose, ouais. C'est peut-être aussi une façon de parler à l'ensemble des Français, parce qu'il y a aussi beaucoup de Français qui entendent Didier Raoult et qui disent finalement, peut-être que ce médicament, on devrait le pousser, on devrait vraiment l'essayer, vraiment le tester à plus large échelle. Il y a vraiment beaucoup de gens qui le voient. Et Emmanuel Macron n'a pas envie de les ignorer, probablement aussi. Donc, c'est aussi une façon de leur parler.
Alors, Emmanuel Dutheil, on parle évidemment avec vous économie et on parle des mesures qui ont été annoncées aujourd'hui. De nouveau, une enveloppe qui a doublé depuis la mi-mars. Le gouvernement a adopté un deuxième budget rectificatif qui prend en compte évidemment le prolongement du confinement. On passe à 110 milliards d'euros, ce plan. Il y a des aides pour les entreprises, mais pas seulement.
Oui, là, surtout, on est sur des aides pour ceux qui sont vraiment en première ligne en ce moment. On a enfin eu le détail de la fameuse prime pour les soignants. C'est une prime de 1 500 euros pour les personnels soignants qui se trouvent dans les zones les plus touchées par le Covid-19. Et c'est également une prime qui sera donnée à ceux qui étaient dans des départements moins touchés, mais qui étaient dans les services Covid-19. Donc, une prime de 1 500 euros pour les autres personnels soignants. C'est une prime de 500 euros. La fonction publique d'État va également avoir une prime, on le révélait ce matin sur Europe 1, une prime qui pourra aller jusqu'à 1000 euros. Alors c'est qui quand on parle de la fonction publique d'État? Eh bien c'est ceux qui ont un petit peu plus, ou beaucoup plus travaillé malheureusement avec cette crise du Covid-19. Eh ben, par exemple c'est les surveillants pénitentiaires. On avait entendu, je crois bien, même dans votre émission Nathalie, leur détresse face à ces cas qui se répétaient au sein des prisons. C'est les douaniers également qui font aujourd'hui des opérations de contrôle pas possibles pour essayer de vérifier que tout se passe bien. Mais c'est également tous ces enseignants qui gardent en ce moment même les enfants des personnels soignants. Donc voilà, ça c'est une grosse enveloppe, parce que rien que par exemple pour la fonction publique d'État, c'est 300 millions d'euros quand même, une fois plus que l'on rajoute. Et puis on a eu le détail d'une partie.
Voilà.
Exactement Nathalie, vous avez raison. À lundi soir, on en parlait avec vous à l'issue de l'intervention du chef de l'État. On était un peu étonnés par cette nouvelle aide pour les familles modestes. Ben, on en a le détail. C'est notamment pour les familles qui touchent le RSA. Là, ils auront 150 euros plus 100 euros par enfant. Et ceux qui sont bénéficiaires des aides au logement, là, ce sera 100 euros par enfant. Donc voilà, c'est une enveloppe conséquente pour soutenir tous ces Français qui sont aujourd'hui soit en première ligne, comme les personnels soignants, soit en difficulté parce que moindre revenu en ce moment.
Oui, on va évidemment donner la parole aux auditeurs dans un instant. Michaël Darmon, je voudrais aussi vous accueillir. Michaël, on en est où parce qu'on est dans le jour d'après, ou en tout cas dans le début du jour d'après, depuis la prise de parole d'Emmanuel Macron lundi. On consulte à tout va pour penser la suite?
Oui, il y a toujours une démarche, je dirais, simultanée, à la fois gérer le moment, bien sûr, la crise, et puis, comme on l'a compris aussi dans la déclaration présidentielle et aussi ce qu'on voit bien en coulisses, eh bien, c'est la façon dont Emmanuel Macron veut poser déjà la sortie de crise politique, l'offre de, je dirais, politique nouvelle, la refondation, comme il a appelé, il a nommé à la fin de son intervention, ce qui veut dire que effectivement il y a beaucoup de consultations, et il va lancer un peu à la manière du grand débat, mais limité aux corps intermédiaires, une consultation, c'est le terme donc employé, avec les partis politiques, avec le comité économique, social et environnemental, et bien sûr également, ça c'est nouveau, les associations et les ONG, de manière à pouvoir continuer à périmétrer et à organiser cette unité qu'il a mise en avant dans sa déclaration, et ensuite en faire un portage politique nouveau, parce que on l'a bien compris, les ministres le déclinent, le social, l'intervention de l'État, la manière dont les services publics, et en particulier le service public hospitalier, seront revitalisés, remis au centre du jeu, change totalement la matrice politique. On n'est plus sur la transformation du début de mandat, on est sur la refondation de l'État. C'est l'acte 3, vraiment.
On va y revenir, Michaël Darmon, parce qu'on se demande quand même s'il n'y a pas un tournant dans la stratégie présidentielle, parce qu'Emmanuel Macron, il avait appelé à l'unité jusque-là mille fois, mais il était quand même toujours dans cette logique où il fonctionnait seul. Est-ce que là, on passe aux travaux pratiques? Vous allez y revenir après la pause. On se retrouve dans un petit instant avec nos auditeurs aussi. On va retourner vous voir, Hélène Kohl, à Berlin. À tout de suite, les grandes voix. Ne bougez pas.
Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Et c'est la suite du débat des grandes voix ce soir, toujours confiné et à distance. Virginie Salmen du service Société d'Europe 1, Emmanuel Dutheil, chef du service Économie, Michaël Darmon, éditorialiste politique, et avec nous ce soir, en direct de Berlin, notre correspondante en Allemagne, Hélène Kohl.
Oui, avec un auditeur aussi qui est avec nous. Bonsoir Jean-Philippe, vous nous appelez de Lille ce soir. Bonsoir, oui, vous êtes soignant hein, au CHU oui, de la ville. On parlait avec Emmanuel Dutheil qui nous l'expliquait de manière très pédagogique, comme toujours, cette prime pour les soignants, entre autres, hein, on a parlé des fonctionnaires aussi. Cette prime, est-ce qu'elle vous réjouit?
Moi, je suis vraiment partagé, c'est ce que je disais à votre collaborateur. Je pense qu'il y a une discrimination, puisque pourquoi donner 500 euros à certains hôpitaux, certains soignants, et pourquoi 1500 à d'autres? Je suis vraiment désemparé. Nous sommes en situation de guerre. C'est comme si...
Alors, si j'ai tout bien compris, pardonnez-moi, 1500 seraient versés pour les soignants qui ont pris en charge des patients atteints du Covid, hein.
Oui, mais même ceux qui n'ont pas pris en charge des patients atteints du Covid ont aussi participé à cet effort de guerre, en déchargeant des services, en étant aussi... présent pour aider à la solidarité. Et donc, je ne comprends pas vraiment cette approche un peu qui consiste au mérite. Moi, je pense que dès les premières annonces, tous les agents hospitaliers étaient considérés comme des soignants. Quand on applaudit à 20h les soignants, on n'applaudit pas certains soignants et pas d'autres. On applaudit, je pense, tout le monde. Tous les agents hospitaliers participent d'une façon ou d'une autre à cet effort de guerre. Et je pense que là, Pour moi, il y a une erreur stratégique de
une revalorisation qui crée une nouvelle inégalité.
Exactement, ça c'est une chose. Et deuxième chose, j'espère qu'après, ces agents hospitaliers dont je fais partie, puisque ça, de l'ASH au grand professeur, tout le monde aura une revalorisation et non pas une prime, mais surtout le point d'indice qui a été gelé depuis de nombreuses années. Et je pense que c'est là aussi qu'il y a un effort à faire. Donc pour moi, il y a une erreur de jugement,
déjà le distinguo qui est fait,
de partage. Il y a vraiment un double, voilà, il n'y a pas des agents qui ne méritent pas, ça c'est pas vrai. Tous les agents,
et ensuite
de la femme de ménage, tout le monde mérite d'avoir cette prime,
qui sur
et
le
cette prime égale, égale,
cette prime et égale, j'entends votre appel, et ensuite une revalorisation sur le long terme, en fait, hein. Bien sûr,
et ça c'est vraiment très très important, et c'est pas dans un an, c'est pour moi plus tard ou plus tard, avant la fin de l'année, il faudra...
Alors, on n'a pas encore d'éléments. On n'a pas encore d'éléments, évidemment, sur cette revalorisation à long terme. Mais évidemment, l'hôpital, il va falloir à un moment ou à un autre hein, que le gouvernement se manifeste sur le sujet. Merci en tout cas de votre appel, Jean-Philippe, depuis le CHU de Lille. Et on a compris à la fois votre attente et votre désappointement. On va retourner voir Hélène Kohl à Berlin. Hélène, est-ce qu'on a un peu plus d'annonces là encore? Moi, je lisais grand rassemblement interdit jusqu'au 31 août. Et puis les masques, ces fameux masques sur lesquels on a du mal quand même à se positionner, même en France. Les masques, chez vous, dans les transports et dans les magasins de rigueur, c'est bien ça?
Non, c'est une recommandation qu'a fait le gouvernement allemand, encore coordonnée avec les présidents des Länder. C'est une recommandation, parce qu'Angela Merkel l'a bien précisé. Pour l'instant, comme vous venez de le dire, on n'est pas tout à fait encore au point pour savoir si c'est effectivement très utile, effectivement nécessaire, etc. Et donc, on est typiquement dans de la politique à la Merkel. Elle présente les faits, on n'est pas 100% sûr. Donc, dans ces faits-là, je dis que c'est une recommandation, mais ça ne doit pas oublier de garder les distances, se laver les mains, etc., etc. Donc, on est vraiment sur un déconfinement très lent. Le gouvernement marche sur des œufs. Angela Merkel a dit que l'Allemagne avait franchi un succès d'étape, ni plus ni moins. Ce sont les mots de la chancelière. Et c'est un succès fragile. L'Allemagne s'en sort un petit peu mieux face à ce virus que les autres pays européens. Il y a beaucoup moins de morts ici, 4000 seulement ce soir. Mais l'Allemagne n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, à répéter la chancelière. Donc pour l'instant, recommandation pour porter des masques. Les magasins qui donc rouvrent à partir de lundi. L'école à partir du 4 mai progressivement. Et puis pour ce qui est des grands rassemblements, effectivement, rien du tout d'ici la fin du mois d'août. Et ça inclut évidemment les matchs de football. Il y avait beaucoup de pression ici, beaucoup de questionnements autour de la reprise de la Bundesliga. Et donc il n'y aura rien de tout ça d'ici la fin de l'été.
Voilà, donc pour ce qui se joue là en Allemagne, avec ces annonces d'Angela Merkel, cette conférence de presse. Merci beaucoup Hélène Kohl. On va revenir en France, nous, à Virginie Salmen, parce que on l'a entendu tout à l'heure, le professeur Delfraissy, hein, président du conseil scientifique, l'a annoncé très clairement. 18 millions de personnes à risque resteront confinées après le 11 mai. Mais alors qu'est-ce qu'on voit dans ces 18 millions de personnes?
Oui, c'est une bonne question. Il l'a détaillé d'ailleurs. Il en fait partie, donc c'est pour ça, dit-il, qu'il s'y intéresse pas mal. C'est évidemment des personnes de plus de 65 ans ou 70 ans. Il n'y a pas d'âge encore fixé, tranché. Ce sont aussi les gens qui sont polypathologiques, qui ont par exemple une insuffisance cardiaque, respiratoire ou qui ont un cancer. Ce sont les gens qui ont des affections de longue durée, évidemment. Mais il y a aussi, dans ces 18 millions, il y a aussi des jeunes. Les jeunes diabétiques ou les jeunes obèses, a cité Jean-François Delfraissy. Au total, donc, ça fait toute une partie de la population qui devra rester confinée de manière assez stricte.
C'est quasiment un Français sur 3 ou sur 4. Hein.
Voilà, c'est ça, oui, c'est une grosse partie de la population. Pour combien de temps? Alors, on ne sait pas. Il reconnaît qu'il ne sait pas. Peut-être, dit-il, en attendant un médicament préventif. En tout cas, cette date butoir, cet objectif du 11 mai, s'il faut retarder de quelques jours parce qu'on n'est pas prêt, eh bien, il faudra retarder, dit Jean-François Delfraissy. Le prérequis, ce sera peut-être toujours les tests. Alors, lui, il parle plutôt d'un médicament parce que sur les tests, il dit, on ne sait même pas ce que c'est exactement, à quel point c'est fiable ces tests sérologiques. Donc, il ne faut pas non plus trop fonder d'espoir sur les tests sérologiques. Et il a une expression pour dire ce que sera cette date du 11 mai, ce pré-déconfinement, disons. Il dit on va passer du noir au gris foncé. Donc ça ne va pas être du jour au lendemain on-off. Hein. C'est vraiment, passe, c'est une petite nuance du noir au gris foncé à partir de la mi-mai, à peu près.
Ouais, à peu près. Emmanuel Dutheil sur le rail, du côté de la SNCF, on le sait évidemment, le trafic est quasiment à l'arrêt total hein, depuis maintenant un mois. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, demande l'obligation du port de masque pour les voyageurs dès la levée du confinement. La SNCF, où en est-on de ce côté-là?
Oui, effectivement, lui aussi s'est exprimé devant les commissions du Parlement et c'est là qu'il a livré cette analyse en disant il faudrait que chaque personne qui monte dans un train porte le masque pour éviter la propagation du virus. Ce qui est impressionnant aussi, c'est les chiffres qu'il a livrés. Alors ça paraît assez logique qu'on imagine que les trains ne roulent pas beaucoup en ce moment, mais je pensais pas quand même qu'on était à ce point-là. Oui. La capacité TGV, les TGV sont remplis à 1% de leur capacité. Non, j'étais impressionné quand j'ai vu ce chiffre, mais c'est vrai que quand vous regardez les différents TGV qui roulent encore, ils sont quasiment vides parce que déjà, je sais pas si vous le savez, mais on n'a pas le droit de s'asseoir à côté dans le TGV, sauf si bien évidemment on est un couple ou si on est avec parents, enfants, mais sinon vous mettez que une place tous les deux sièges, donc bon, vous imaginez bien que vous remplissez pas beaucoup un TGV comme ça, et vu qu'il y en a quasiment plus, Jean-Pierre Farandou qui dit que la situation de l'entreprise est extrêmement compliquée et qui dit qu'il va falloir mettre à l'arrêt certains projet d'infrastructure, des travaux qui étaient actuellement en cours. Alors, il n'a pas cité lesquels. Bon, il a aussi dit, sauf si bien évidemment, l'État décide de faire un grand plan de financement des infrastructures, vu que maintenant, l'argent n'a pas l'air de coûter très très cher et on a l'air d'en trouver partout en s'endettant. Bon, voilà. Mais il dit bien que l'entreprise ne tombera pas. Il dit, rassurez-vous, on va payer nos salariés, on va payer nos fournisseurs, mais on va entrer dans une période extrêmement, extrêmement compliquée.
Et corrigez-moi si je me trompe, je crois qu'il espère faire rouler 20% des TGV fin mai, la moitié en juin, et peut-être très optimiste, ou pas d'ailleurs, la totalité en juillet.
Non, ça paraît tout à fait envisageable, fait envisageable. Vous savez, à la SNCF, l'avantage de la grève, c'est que ça les a appris très récemment à faire fonctionner beaucoup de choses avec très peu de monde. On a tous été, en tout cas beaucoup ont été énervés par la situation sociale de l'entreprise au moment de vouloir partir en famille pour Noël. On a beaucoup critiqué la SNCF, mais je peux vous dire que la prouesse qu'ils ont réussi à faire, à emmener tant de monde à Noël, ça a été pour eux une répétition générale de faire tourner un modèle avec peu de monde et pour autant quelques touristes. Après, là encore, ils en sont très conscients. C'est, je crois que c'est, on le disait hier soir ou avant-hier soir, Je suis pas sûr que dès le confinement terminé, on va tous avoir envie de s'agglutiner dans un TGV pour Marseille ou pour Bordeaux. Donc ça va être très progressif, la reprise.
Bien sûr. Alors, Emmanuel Macron, non, Michaël Darmon, on va y arriver. Michaël Darmon, je sais pas pourquoi.
Il
y a des soirs comme ça.
C'est pas grave. Ouais,
c'est ça, de plus en plus, c'est ça le problème.
Je ne porte pas plainte.
Alors, en fait, c'est bien le président qui regarde de près, qui scrute les écologistes, qui leur fait presque des ronds de jambes parce que dans cette crise, on a vu aussi la pollution baisser, on a vu aussi la nature, entre guillemets, reprendre ses droits et de fait se poser la question de notre avenir, un avenir peut-être plus vert à l'aune de cette crise.
Oui, c'est au moment d'ailleurs où il évoque ce fameux projet de refondation et la manière de fonctionner, de faire une autre société, eh bien que Emmanuel Macron dit à ce moment-là, au détour d'une phrase, lundi soir, il faudra bien sûr y instaurer également la sobriété carbone et la résilience. Et c'est cette simple formule, c'est au fond une sorte de code, de mot de passe qu'il envoie en ce moment aux écologistes, parce qu'ils ont compris de ce point de vue-là que les conversations qu'ils ont en ce moment avec l'Élysée sur la nature du plan de relance, la manière de verdir le plan de relance, eh bien, commence à être entendu. Il y a en ce moment en back-office, comme on appelle en coulisses, toute une série de d'instances, de conclaves, d'investisseurs privés et publics, notamment avec la Caisse des dépôts, qui travaillent à la manière de verdir ce plan de relance en disant et en faisant valoir que c'est peut-être une occasion unique de pouvoir réorganiser l'économie en injectant les milliards qui vont être injectés données pour pouvoir relancer l'économie, eh bien en les mettant également dans des décisions et des plans massifs qui vont également en faveur de la protection du climat. Ça sera une des données politiques très importantes, d'autant plus que, comme on le disait, on a bien compris que Emmanuel Macron va tenter d'élargir son arc majoritaire et peut-être faire un clin d'œil ou peut-être un geste, un signal en faveur des écologistes pour voir s'ils pourraient se joindre à une forme d'unité ou d'union nationale.
Eh oui. On le voit, hein, ce virus, ce Covid-19, ce coronavirus, il fait bouger les lignes, hein, clairement. Merci Michaël Darmon. On va conclure avec vous, Virginie Salmen, si vous le voulez bien, sauf si Hélène Kohl a de nouvelles informations depuis Berlin, mais j'aimerais bien aussi vous entendre sur cette reprise de l'école à partir du 11 mai, reprise progressive, on voit bien qu'on y va piano-piano, hein, du côté de Jean-Michel Blanquer à l'Éducation nationale. On a entendu tout et son contraire aussi sur les enfants depuis le début. Sont-ils porteurs du virus, asymptomatiques, etc., etc. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui ?
Alors oui, c'est un grand enjeu. On l'a beaucoup entendu. On a dans l'idée, en tout cas, que les enfants sont des porteurs sains. Eh bien, c'est pas si vrai que ça, apparemment. C'est ce qu'observent, en tout cas, les pédiatres. Et une étude vient d'être lancée sur 600 enfants qui seront prélevés avec, vous savez, les petits écouvillons dans le nez les cabinets de pédiatres d'Île-de-France. 300 enfants avec symptômes du type coronavirus et 300 sans symptômes. Et on se rend compte déjà que parmi ceux qui ont des symptômes, 30% des adultes sont testés positifs et seulement 10% des enfants. Donc finalement, ils ne seraient pas si porteurs que ça, les enfants. On les accuse un peu à tort. Et ce qui serait peut-être plus dangereux, finalement, dit le professeur Robert Cohen qui mène l'étude, c'est les parents à la sortie de l'école, finalement. À 4 heures, quand ils viennent les chercher, c'est peut-être eux qui... Alors pour la grippe, c'était vraiment... Les écoles étaient vraiment un réservoir, une façon de répandre l'épidémie de façon assez rapide. Mais là, ce serait plutôt les adultes et les enfants. On leur aurait attribué cet adjectif de porteur sain, peut-être un petit peu à tort. Donc on le saura bientôt parce que justement cette étude donnera ses résultats d'ici un mois, donc autour du 11 mai.
Bon, juste avant, on espère en tout cas.
Juste avant, voilà.
Il faudrait. Merci beaucoup Virginie Salmen, merci beaucoup les grandes voix, merci Hélène Kohl depuis Berlin. À demain, n'est-ce pas?
À demain.
À demain.
Belle soirée.